19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, comme chaque soir, c'est ici que ça se passe pour commenter, analyser et décrypter l'actualité. Alors ce soir au menu, plusieurs éléments qu'on a décidé évidemment de consacrer. On va donner une belle part ce soir, eh bien, au programme. En ce moment même, le candidat Emmanuel Macron, non pas le président, mais le candidat Emmanuel Macron, est en train encore de répondre aux journalistes, à la presse. Il a dévoilé aujourd'hui à Aubervilliers son programme pour la présidentielle. Alors, avec nos invités, avec nos débatteurs influenceurs, ces leaders d'opinion, notamment, on va commenter ce que propose tout simplement Emmanuel Macron. Alors, sachez, mesdames et messieurs, que nous parlerons aussi de la guerre en Ukraine, si le temps nous le permet, puisqu'on viendra sur les propos de Zelensky qui appelle donc devant les Allemands à abattre le mur, le nouveau mur érigé en Europe. On parlera aussi de cette primaire, tiens, j'aime ça, la primaire populaire qui fait, tiens, son mea culpa. Je n'arrive même pas à y croire tellement, je me suis dit, mais c'est possible cette histoire-là, après son soutien à Mélenchon. Eh bien, dis donc, la gauche, elle a du travail. Hein. Enfin, bref. Oui, il y a du boulot, mais c'est normal. Voilà, merci Giovanni. Le 0153483000, ça c'est le numéro du standard. Eh oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous appeler. Vous nous appelez, vous nous envahissez et vous commentez avec nous l'actualité. Vous interpellez, comme vous l'avez fait hier, un des débatteurs sur le plateau, ici même, dans les informés sur Beurre FM. L'invité du jour, vous savez, ça a été un vrai succès. C'est la Seine-Saint-Denis qui était à l'honneur il y a le week-end dernier avec le FC 93 Bobigny. Et dans une poignée de secondes, nous serons avec, justement, son président. 19h30, le Quai 9, avec l'éminent Pascal Boniface. Il va nous décrypter, figurez-vous, la géopolitique de la guerre. Merci Pascal. Ça se passe à 19h30. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. C'est parti.
Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Avant de retrouver les débatteurs influenceurs sur le plateau, je vais accueillir d'abord notre invité.
Les informés, l'interview.
Et c'est le patron, le boss, justement, du FC. Le FC 93 de la Seine-Saint-Denis avec la Coupe Gambardella, le projet justement dont on a parlé toute la semaine dernière. Monsieur le Président, bonjour.
Oui, bonjour Adil.
Vous êtes Mahamadou Niakate, le boss, le président du FC 93. Merci d'être avec nous. Alors justement, ça a été un grand moment le week-end dernier, dimanche dernier. Un grand moment parce que j'ai dit, malgré la défaite évidemment, du FC 93 face au Stade Rennais. Ça se passait en quart de finale avec cette prestigieuse coupe, hein, Gambardella. Okay. Finalement, quel enseignement en tirez-vous, monsieur le président?
Quel enseignement en tire? C'est qu'aujourd'hui, ben, nous déjà, tout d'abord, on est fiers d'avoir fait un parcours et représenter le département. On a représenté tout un département. Pour montrer qu'on a un département qui est jeune et qui est dynamique et qui est passionné de football. Et l'enseignement qu'on en tire, c'est qu'aujourd'hui, on sent qu'on a des gamins qui ont un potentiel, mais il en manque encore un petit quelque chose pour atteindre en finale et la différence entre un gamin de centre de formation et un gamin qui est déclaré amateur, elle est maigre, on l'a vu. C'est simplement, je pense, sur la partie athlétique ou sur la partie structurelle qui fait la différence, mais sinon en termes de potentiel, eh ben on n'est pas plus loin que ça, on va dire ça comme ça.
Monsieur le Président, monsieur justement Mahamadou Niakate, j'ai vu qu'il y avait une ferveur ce dimanche-là, une ferveur, je parle de la jeunesse, de cette jeunesse qui a répondu présent. Vous étiez à peu près, je crois, entre 1000 et 1500. Vous avez fait complet, et il y avait aussi des personnalités politiques, artistiques, du beau monde. Est-ce que cela veut dire que notre jeunesse, la jeunesse du 93, a brillé notamment par son vivier, ses talents?
Exactement. C'est vrai que la jeunesse, elle nous a bien représenté, parce qu'aujourd'hui, comme je dis, on est l'un des départements les plus jeunes de France. Et aujourd'hui, les personnalités qui ont, je pense, assisté à ce match, ont pu voir le potentiel qu'il y avait. Aujourd'hui, je pense que c'est un potentiel qui est exploité, mais qui est pas encore assez développé. C'est-à-dire que je pense que toutes les associations de quartier ou de l'association qui travaille avec ces jeunes-là sur les différents territoires, oui, on fait un beau boulot, mais je pense qu'on peut en faire beaucoup plus si on était accompagné par si on était encore plus accompagné et soutenu. Malgré, je vous dis, aujourd'hui on était très fiers d'avoir pu rassembler autant de personnalités politiques et artistiques week-end qui sont venus soutenir le projet. Et vraiment, je vous dis, on peut vraiment remercier la PPF qui nous a aidé, soutenu dans cette journée, parce que ça a été vraiment une grande réussite, parce que c'était vraiment éclectique au niveau politique. Il y avait tous les bords politiques, et vraiment on en est fiers, en tout cas.
Pierre, et dites-moi, Monsieur le Président, cette journée, c'est aussi en partenariat avec le Clubhouse. Finalement, ce partenariat, il va s'enrichir davantage. Qu'est-ce que cela présage, justement, dans les mois, dans les années à venir, avec le FC 93 et le Clubhouse, justement, incarné par Sefiu?
Oui, c'est vrai que le Clubhouse, c'est le Clubhouse qui aujourd'hui draine une grande partie des personnalités. C'est pour accompagner le projet, pour aller au plus haut niveau. Clairement, aujourd'hui, le projet, c'est d'aller au haut niveau pour montrer une bonne image, de notre département, et aussi de tous les jeunes qui incarnent ce département. Et c'est pour ça que le Clubhouse est un acteur majeur sur le projet, pour nous accompagner sur la partie, communication, sur la partie relationnelle, sur la partie réseau. Et je pense que toutes les personnalités qui soutiennent.
Parlez bien devant votre combiné, parce qu'on vous entend de très loin. Désolé. Voilà, exactement. Merci.
Ouais. Non, je disais, voilà, c'est un projet qui, avec le Clubhouse, qui va nous aider à. Qui va nous soutenir sur la partie communication, sur la partie numérique, sur la partie réseau relationnel. Parce que là, c'est là où on connaît Sefiu et son équipe nous accompagne, là-dessus on ne remerciera jamais assez de nous avoir aidé sur cet événement.
Exactement, votre équipe des U19 du FC 93, elle s'est fait éliminer par le Stade Rennais. Qu'est-ce que vous avez dit, justement? Alors c'est une coupe prestigieuse, Gambardella, justement, extrêmement prestigieuse. Monsieur le Président, qu'avez-vous dit aux joueurs, à votre équipe? Vous leur avez dit quoi? Quels ont été les mots échangés avec eux?
Les mots échangés avec eux avant, on va dire, on les a encouragés en leur disant qu'aujourd'hui déjà on était déjà contents de leur parcours et qu'ils avaient et que la seule chose à faire, c'est tout donner. Et après le résultat, en fait, forcément à la fin du match, il y aura un déçu et une équipe qui sera heureuse. Et bon, malheureusement, c'est tombé sur nous qui avons perdu. Mais après, à la fin du match, on a encouragé en disant que voilà, ils nous ont rendu fiers et ils t'ont bien battu. Et sur le match, on n'a pas à rougir parce qu'on n'est pas resté derrière en disant qu'on va pas jouer, on a joué le jeu. Et bon, après on a pris 4 parce qu'il y avait du talent en face, il y a quand même du talent.
On
en
a
face,
vu sur le terrain, ils ont tout donné, tout donné jusqu'au bout d'ailleurs, jusqu'à la dernière seconde, Monsieur le Président.
C'est ça, c'est pour ça que, mais après, c'est pour ça qu'on n'a pas, là-dessus, on a encouragé le staff, aussi le coach a fait un gros travail toute l'année, Karim et son équipe avec la base, Baba, ils ont fait un gros travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on leur a dit qu'ils ont fait un bon boulot.
C'est prometteur pour la suite.
C'est prometteur pour la suite parce qu'il y a des jeunes qui vont intégrer aussi l'équipe, on a aussi l'équipe senior qui est en National 2. Il y a certains jeunes qui vont intégrer, qui font déjà des séances avec l'équipe National 2 senior et qui devront intégrer définitivement le groupe pour la saison prochaine.
Monsieur le Président, à celles et ceux qui vous écoutent finalement, y compris les auditeurs du 93, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire avec évidemment le projet que vous portez, et puis dans les mois, dans les semaines à venir, les choses qui vous attendent, qu'est-ce que vous avez envie de dire?
Qu'est-ce que j'ai envie de dire à tous les acteurs du département? C'est de dire que c'est un département sur lequel je pense qu'on a beaucoup de difficultés en primaire sociales et autres, et je pense que c'est en réunissant toutes nos forces qu'on va montrer qu'on a un département qui est riche et qui a un vrai potentiel, parce que aujourd'hui je pense qu'on a ce gros souci où on manque de d'unité dans des projets, et là on l'a prouvé ce week-end en faisant l'union, et ben qu'on peut faire de belles choses, et il faut qu'on encourage à ce qu'on mutualise nos moyens, que ce soit moyens humains, moyens financiers ou moyens logistiques, mais à tous les niveaux, à tous les projets. On parle pour le foot, mais on peut parler pour la même chose pour la boxe, pour le hand, pour le rugby et autres. C'est-à-dire que je pense qu'on a un département qui a un gros potentiel, mais il faut qu'on travaille ensemble pour le rendre, pour mettre toute la lumière sur notre département et montrer tout le potentiel, la richesse de notre département.
Merci Mahamadou Niakate, président du FC 93. Ça se passait au stade Auguste Delon de Bobigny. Merci Monsieur le Président et bravo. Et franchement, je voulais vous féliciter. Bravo évidemment pour la qualité et pour l'organisation de cette journée dimanche dernier.
En tout cas, merci d'être venu.
C'était la moindre des choses. Vous m'avez invité, je réponds présent et je ne regrette pas. C'était magnifique et bravo à vous tous.
Merci beaucoup.
19h10. Merci à vous. À très bientôt. Tout de suite, le face à face.
Les informer, le face à face.
Le face à face, c'est tout de suite. C'est maintenant avec, nos invités débatteurs qui sont avec nous. Bruno Pommard, bonjour.
Salut Adil, salut à tous les
plaisir
auditeurs.
Plaisir de vous retrouver parmi nous.
Je suis très content de venir à Beurre FM, évidemment, pour débattre avec vous.
Maintenant, vous êtes chroniqueur, une star, la star des chez Hanouna, Cyril Hanouna. S'il nous écoute, je sais qu'il parle souvent de Beurre FM en plus.
Oui, c'est vrai,
j'ai vu. Il m'a promis de venir ici.
Il le fera. Il tient toujours parole.
Moi, il m'a fait un SMS, il m'a dit, promis Adil, je viens.
Mais j'ai grand plaisir à venir à Beurre FM, parce que là, on discute librement, et ça, c'est important.
Ça, c'est vrai. Et par ailleurs aussi, en dehors de votre casquette de chroniqueur chez Cyril Hanouna, qu'on salue, vous êtes aussi le patron, surtout, de Raid Aventure.
Oui.
Ça se passe bien?
Association, oui. On a le vent en poupe, parce qu'on fait du travail depuis 30 ans qui est concret dans les quartiers, auprès des jeunes, avec la police. Et c'est vrai que c'est un véritable succès. Moi, je suis très content. Évidemment, 30 ans de sueur pour travailler sur les relations police-population. Voilà, on y est en plein dedans. Il faut continuer.
C'est normal, vous êtes ancien du Raid. Normal. Abdeslam Itage, bonjour.
Bonjour Adil.
Macroniste jusqu'au bout. Modem. Voilà.
Ça commence.
Celui qui coordonne et qui s'occupe du 95 du département du 95. Absolument. Face à vous, c'est bien, c'est Riyad Chaibi. Bonsoir Riyad Chaibi.
Bonsoir Adil Farkan.
Le président de la coopération franco-tunisienne. Ça va?
Très bien, et vous?
Et on attend Mohamed Benjebour qui est coincé dans un taxi.
Sur le périph, oui, dans 10 minutes il sera là, il m'a dit.
Il nous écoute. On vous salue chaleureusement, Mohamed. S'il est là dans quelques minutes, tant mieux. Allez, messieurs, tout de suite, cette spéciale. Le président. Pas le président. Le candidat.
Attention,
le
lapsus.
J'ai vu, le lapsus. Le candidat. Voilà, merci Giovanni. Le candidat Emmanuel Macron a dévoilé aujourd'hui à Aubervilliers, au DOC, ce jeudi, son programme pour la présidentielle. Il a tout abordé. Retraite, emploi, défense, école, bref.
Jeunesse, oui.
Jeunesse, etc. On va en parler, on va prendre le temps. D'abord, qu'est-ce qu'on peut retenir du programme et évidemment, malgré là, en ce moment même, je crois qu'il est encore en direct, l'échange avec la presse. Bruno Pommard, qu'est-ce qu'on peut retenir?
De façon globale, ça représente une enveloppe de 50 milliards, c'est pas rien. Hein. 50 milliards, c'est beaucoup. Oui, absolument, par an. Ça, c'est déjà une annonce évidente, parce qu'il faut des moyens pour réformer. Et je crois que ça va dans la continuité de ce qu'a initié Emmanuel Macron pendant 5 ans. Je crois qu'il continue sur sa ligne, avec le gouvernement qui est toujours au travail. Donc, je crois qu'il continue. Et même s'il a pas tout réussi, je veux dire, il y a des engagements qui ont été tenus. Et c'est une chose importante. Ce qui m'a plu beaucoup dans son discours, d'ailleurs, c'est cet engagement.
On sent le macroniste, là, ça y est.
Non, pas du tout, Adil. Non, tu sais, je suis maire sans étiquette. Non, franchement.
C'est vrai.
J'essaie d'être mesuré avec les politiques parce que on est pour ou contre. Moi, je trouve ça complètement con. Excusez-moi le terme, mais je crois qu'il y a des choses intéressantes qui ont été faites avec d'autres beaucoup moins. Et avec lui aussi, il a des choses de loupées. Mais ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est sur la formation, sur la jeunesse. Et il y a beaucoup de choses de dites. On aura l'occasion d'en discuter.
Non, mais on va en prendre le temps. On va faire le tour de table. Mais je veux qu'on prenne le temps aujourd'hui de commenter, d'analyser son programme face à la presse. Abdeslam Itache.
Oui, faut juste préciser que les 50 milliards d'euros par an, en fait, seraient totalement financés par les réformes. Donc voilà, il n'est pas question d'endetter davantage le pays. Et
je crois qu'il n'est pas endetté. Riyad Chaibi nous dira tout à l'heure pourquoi, parce que il va puiser justement ces milliards.
C'est ça.
Voilà,
dans les réformes.
Voilà,
exactement. Donc voilà, avec des budgets pensés à l'équilibre, avec cette volonté aussi de baisser de 15 milliards d'euros les impôts. À moitié sur les entreprises et à moitié sur les particuliers. Donc voilà, il y a un vrai choix et un programme crédible qui sera chiffré par l'avenir. Mais je tenais à ajouter
juste
une précision.
Ne nous arrêtons pas. Alors oui.
Cette réunion qui a été faite par Emmanuel Macron, moi je suis ravi de voir qu'il l'ait fait en Seine-Saint-Denis, département en difficulté, département. On entendait le président du club de foot qui disait qu'il était l'un des plus jeunes. C'est le département le plus jeune de France. Donc voilà, c'est déjà un marqueur fort. En espérant justement que cette dynamique
on dit déjà, je suis en train de lire messieurs, que désormais le Macron 2022 il est plus à droite que le Macron 2017. Je ferai un tour de table, ça vous fait sourire? Oui, justement, on va en parler. Je voudrais aussi entendre nos auditeurs. 0153483000, on marque la première pause pub. RHIB, c'est à vous la parole juste après la pub, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Les informés, c'est avec Bruno Pomard. Les informés, c'est avec Abdeslam Itache. Les informés, c'est avec Rayed Chaibi et un retardataire, Mohamed Benjibour. Nous allons prendre le temps ce soir dans Les informés, justement sur BFM, de commenter d'Emmanuel Macron et son programme face à la presse aujourd'hui. Rayed Chaibi, on ne vous a pas entendu justement, je vous donne la parole. Alors il a décliné toute une série de thématiques notamment, et puis de lutte, de commission, d'exécutif plus fort, il a parlé aussi. Alors on parle d'un Macron d'ores et déjà plus à droite qu'en 2017.
Bah, déjà j'ai envie de dire enfin, pas enfin le dans le sens où il présente son programme, enfin on parle d'autre chose que Marianne n'est pas voilée, de grands remplacements, on parle de choses du quotidien, on trace des perspectives, donc déjà ça fait du bien d'avoir, je dirais, ou en tout cas d'écouter une présentation de programme qui ne tape pas que sur l'islam ou les musulmans. Première observation. Deuxième observation, c'est un programme assez complet, on y reviendra dans quelques instants. Est-ce qu'il est de droite ou pas, chacun jugera à sa manière. Il y a des mesures qui peuvent être entre guillemets apparentées comme étant plutôt sociales, d'autres plutôt libérales, mais dans l'ensemble c'était plutôt complet, plutôt on voit une perspective, mais on aura l'occasion d'en parler.
Alors justement, moi je voudrais prendre les points par point. On va écouter quelques extraits justement. Les extraits concernant, donc on va pas tout, on n'a pas le temps, en une heure on peut pas tout aborder, mais par exemple sur la question des impôts, écoutons un court extrait et on revient justement en parler pour nous livrer vous-même votre vision. Les impôts.
Alors pour les plus précaires d'abord, je souhaite qu'on puisse mettre en place ce que j'appellerais la solidarité à la source. On a fait le prélèvement à la source, formidable innovation de simplicité. C'est ce qu'on a lancé depuis 2018, c'est un travail titanesque. C'est au fond de pouvoir dire le RSA, la prime d'activité, les APL, les allocations familiales, tous ces dispositifs qui sont très segmentés, avec des logiques qui ne sont pas les mêmes de revenus de référence, avec ensuite du coup des trappes, des situations ubuesques qu'on connaît, que à juste titre souvent vous dénoncez en disant c'est du coup des mécanismes qui n'incitent pas à reprendre l'activité parce que si je reprends 2 heures d'activité ou 3 heures d'activité, je perds telle aide qui rend notre système illisible, injuste.
Injuste, illisible. Alors, les impôts, le candidat Emmanuel Macron, là-dessus, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est votre, comment vous captez ce message, Bruno Pomard?
Dans ce qu'il dit, c'est vrai, d'abord, on sait que la France est un pays solidaire, et Dieu sait si des aides, il y en a, on ne peut pas dire le contraire. Mais à un moment donné, la caisse, elle se vide, à force d'aider dans tous les sens. Il faut qu'à un moment donné, je pense que les Français s'en rendent compte, tout au moins une grande partie doivent s'en rendre compte, et qu'on trouve, évidemment, un juste équilibre. Si on en vient juste au sujet du RSA, par exemple, qui était un vaste sujet d'ailleurs ce matin encore sur les radios et les télés, c'est proposons aux gens d'être, je dirais, solidaires, même s'ils sont dans la précarité, parce que toucher 580 euros par mois pour les couples avec 2 enfants, c'est 1 200 grosso modo. Effectivement, c'est pas grand chose, mais en fait, c'est quand même une aide. Quoi qu'il en soit, c'est nos impôts qui permettent cette solidarité nationale, et c'est important. Pourquoi ne pas demander aux gens qui touchent ces sommes-là d'être solidaires, c'est-à-dire en s'engageant peut-être quelques heures par mois, par semaine, pour être pas pour profiter d'eux et leur dire il faut travailler, on vous file du fric, il faut que vous bossiez. Non, c'est pas l'exploitation qu'on veut faire, c'est justement pour laisser les gens dans la dynamique et de ne pas rester chez eux. Moi, j'ai un cas dans mon petit village, le gars touche ça et il ne bouge plus de chez eux, et même il boit et tout ce qu'on peut imaginer. Bon, bref, donc ça permet aux gens de rester dans l'actualité, d'être en contact avec la société, et je pense que c'est une bonne chose. Après, il faut pas que ça soit de la précarité, comme on dit. Il faut qu'à un moment donné, Pôle emploi, puisque ça va devenir maintenant France Travail, je crois. Bon,
France Travail, c'est ça exactement.
C'est un acronyme, bon, ça me fait un peu sourire, mais admettons que ça aille mieux. Ces organismes-là sont faits effectivement pour aider nos compatriotes à trouver du boulot dans de bonnes conditions et en évitant ce contact, je dirais, entre les aides qui parfois n'hésitent pas à aller travailler. Ça, c'était
0153483000. Qu'avez-vous pensé justement du programme d'Emmanuel Macron, le candidat? Je parle bien sûr. Vous pouvez venir nous livrer, commenter avec nous 0153483000. Abdeslam Itach, tiens.
En fait, sur la solidarité à la source, le but est tel que l'a expliqué Emmanuel Macron, candidat, c'est de permettre aux personnes qui, justement, ne demandent pas certaines aides, par méconnaissance, et vous le savez très bien, les personnes qui sont le plus dans le besoin ne sont pas toujours bien informées de leurs droits et bien informées de tous ces services qui peuvent leur être proposés. Et en effet, moi, je vous rejoins sur cette partie participation à la société, qui est une façon de remettre en selle des personnes qui n'ont pas travaillé, reprendre goût, se re-sociabiliser, échanger avec des gens qui sont en activité professionnelle. Et c'est aussi une des propositions d'Emmanuel Macron que de demander aux personnes qui perçoivent le RSA d'avoir une participation dans le tissu associatif ou pour des collectivités comme ça, pêle-mêle, pour faire traverser les enfants ou dans les établissements. Vous voyez,
on se sent valorisé en faisant ça.
Complètement. C'est aussi raccrocher les wagons, permettre aux personnes qui sont loin du secteur professionnel de justement pouvoir faire société, en fait.
Tout à fait.
Et pouvoir se rassembler et pouvoir justement échanger, expliquer les difficultés des uns et des autres. Et c'est ça faire société, c'est ça faire bloc.
Alors c'est pas donné à tout le monde.
Alors,
vous avez des mamans qui sont seules et qui touchent les minima
comme
ça,
qui élèvent
leurs enfants. Effectivement, de façon pratique, elles peuvent peut-être pas donner du temps. Mais je pense que de façon générale, on peut remettre le pied à l'étrier, comme on dit, à ces gens qui sont hors de la situation, hors de la normalité, je dirais.
Raed Chaibi.
Bon, je vais pas être différent de ce qu'a dit notamment Bruno Pomard. Je ne pense pas que ce soit une insulte de demander à une personne qui touche justement le RSA de consacrer 10, 15, 20 heures d'activité justement pour quelque part se maintenir avec le monde du travail, à condition effectivement que ça ne devienne pas je dirais un emploi précaire. Mais ça suppose également, notamment dans le cadre de la réforme de Pôle emploi qui va devenir effectivement France Travail, qui est un véritable accompagnement individualisé.
Exactement.
Pour qu'on ne puisse pas retomber dans les travers de ce qu'a pu le RSA.
Justement, autre extrait qu'on va écouter maintenant, c'est un autre extrait toujours de description de programme. On va écouter un autre extrait, c'est celui du RSA. RSA, vous savez que c'est un sujet sensible. Hein. Je sais que pour l'avoir traité ici, par exemple, je voudrais entendre nos auditeurs, le RSA et la jeunesse. Écoutez, regardez ce qu'il dit.
Il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle, soit de formation en insertion, soit d'emploi, et d'être mieux accompagné, de dire il n'y a pas simplement une prestation, mais aussi un accompagnement. Et au fond, ce que je souhaite faire avec cette réforme du RSA, c'est exactement ce que nous sommes en train de déployer depuis quelques semaines avec le contrat d'engagement jeune pour les 18-25.
Alors, justement, alors Bruno Pomard.
Eh bien, je trouve, non, mais il n'y a rien
ça
à dire.
Ça fait débat ou pas?
Mais ça va dans le bon sens, surtout pour la jeunesse, je trouve que ça va dans le bon sens. 18-25 ans, c'est ceux-là qu'il faut aider, parce que c'est ceux-là qui sont les plus précaires souvent et qui sont sans travail. Donc je trouve que c'est intéressant, mais encore une fois, on donne et de l'autre côté, on demande aux jeunes de se former. Donc je veux dire, c'est pas... Alors vraiment pas du tout.
Vraiment pas du tout.
L'essentiel, c'est que ces jeunes-là se forment.
On va prendre les auditeurs, mais j'aimerais les entendre aussi sur le sujet de la jeunesse, le RSA, 0153483000, Abdeslam Itach.
Non, mais tout est dit. On a abordé justement cette participation à la société. Je crois que tout est dit.
Tout est dit. Raed Chaibi.
Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, à une contribution à la société, mais je pense qu'il faut surtout avoir une approche globale, notamment sur l'insertion. Parce que je pense, au-delà des 18-25 ans, à la réinsertion des seniors, par exemple, des personnes en situation de handicap aussi, c'est aussi très compliqué, on n'en parle pas forcément assez. Donc je pense qu'il faut avoir vraiment une approche globale de l'insertion professionnelle, en tout cas de ces personnes qui sont en situation de recherche d'emploi ou de formation.
Eh bien, on va aller s'intéresser à nos auditeurs pour voir ce qu'ils en pensent, justement. Du côté de Longjumeau, Mohamed, bonjour Mohamed, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Ravi d'être sur votre antenne comme d'habitude.
Eh bien écoutez, ravi aussi, partagé. Qu'est-ce que vous pensez alors du candidat Emmanuel Macron?
Du candidat ou du programme?
Comme vous voulez. Le programme alors, va avec le candidat, alors, de toute façon.
Alors le candidat, bon bah je vais être très bref, il nous aura bien eu en 2017 puisque on est un certain nombre à avoir eu confiance en lui et en sa jeunesse. Dans son dynamisme, on pensait réellement qu'il allait casser les codes et changer les choses. Et on s'aperçoit en fait que c'est un Sarkozy, c'est un Hollande en plus jeune, rajeuni. Voilà. En fait, ça a été exactement la même
politique.
Ça a été exactement la même politique que ses prédécesseurs. Mais et là, j'en reviens. Ça me paraît passer justement à son programme. En fait, le programme d'Emmanuel Macron, comme celui de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, ce n'est nul autre que ce que demande la Commission européenne et notamment les GOPE. Alors, je ne sais pas si vos intervenants et nos auditeurs savent ce que c'est que les GOPE. Ce sont c'est ce que propose et ce que demande la Commission européenne aux États membres à mettre en place sur leurs États. Et là, ce que propose Emmanuel Macron, ça a été les GOPE qui sont proposés pour la France par la Commission européenne.
Je laisserai le son justement à nos débatteurs de réagir à ce que vous dites, justement. Ça veut dire qu'en quelque sorte, il obéit, vous croyez que ce n'est pas son programme, il obéit à la Commission?
Mais bien évidemment, bon. Il n'a d'autre choix que d'obéir.
Bon, eh bien merci Mohamed, c'est votre opinion. Bruno Pomard.
Je suis pas d'accord avec Mohamed là-dessus. Il y a une nation, la France, qui est en accord sur certains sujets avec l'Europe, c'est certain. Mais je pense pas que l'Europe conditionne, je veux dire le devenir de notre pays. On sait nos problématiques. Le président de la République, comme les autres, ont essayé de traduire, je dirais, en fait, en action, ben, ce qui ne va pas dans notre pays. Je pense que c'est un peu je dirais rapide de comparer ce que voudrait l'Europe par rapport à notre pays. D'abord parce que chaque pays a ses spécificités. Donc non, je trouve pas que ce soit très très opportun comme rapprochement, je dirais.
Mohamed Benjebour, bonsoir. Consultant en communication, vous êtes retrouvé vraiment coincé, vous?
Oui, coincé. Je pense que ce sont les collègues de Bruno Pomard qui ont bloqué le périphérique. Après, j'arrive, l'ascenseur marche pas.
Il vient, il détend l'atmosphère.
Non, vraiment.
Pour éviter de se faire battre, le mec, il a
tout. Non, mais heureusement, il y a un chauffeur extraordinaire qui s'appelle Bian Niamene, qui est ivoirien et qui m'a, voilà, qui a décollé.
Il nous écoute
en ce moment.
Eh bon, on vous salue, monsieur le chauffeur.
Auditeur de Beurre FM.
Voilà, on vous salue, chaleureusement.
Je voulais l'embrasser.
Prudence à vous, en roulant. Dites-moi, Mohamed Benjebour, justement, Macron, candidat, son programme,
ce qui est intéressant, c'est qu'on lui reprochait d'enjamber les élections et de vouloir enjamber les élections et d'éviter le débat. Finalement, il se met dans l'arène et puis il occupe le terrain et puis il l'occupe bien parce que je crois qu'il est encore en train de parler là.
C'est fini, il y a une demi-heure là environ.
C'est très bien.
C'était un peu long.
Non, ce qui est intéressant.
Il manquait que lui pour mettre la forme,
c'était évidemment une boutade. Non, simplement, je veux simplement dire que...
Parce que
bon. Mais ça va, vous voulez mettre dans la merde ou quoi? C'est bon, pardon.
Excusez-moi. On vous écoute.
Non, simplement, ce que je voulais dire, c'est comme d'habitude, le en même temps. C'est-à-dire, c'est du chaud-froid. Alors, il y a une baisse des droits de succession. Alors, il y a quand même, malgré tout, je vais dire une chose, c'est que...
Ah bah, enfin, il y en a un qui n'est pas d'accord.
Non, mais il y a
parce que moi, j'ai que des gens qui sont d'accord.
Ils sont d'accord avec Emmanuel Macron.
Ah ouais, du coup, merci Mohamed Benjebour de nous sauver.
Non, il faut être le premier critique de soi-même. Non, mais c'est vrai qu'il y a du chaud-froid. Globalement, on fait quand même très plaisir à une classe moyenne un peu plus, quoi. Donc sa jambe droite a encore enflé, hein, plus que la jambe
gauche. On dit à Macron plus à droite qu'en 2017, c'est ce qu'il se dit.
Bah voilà, bah sa jambe droite a un peu enflé par rapport à la jambe gauche, ça c'est clair. On est dans du chaud froid, il y a la baisse des droits de succession, mais en même temps on sait que c'est quelque chose c'est une mesure qui, je sais pas à qui je parle, il y a peut-être des macroniens autour de moi, mais c'est une mesure qui favorise plutôt les classes moyennes plutôt aisées, même si on a des propriétaires, hein, parfois.
Quel
qui,
sujet
la baisse des droits de succession.
Ah oui, qui ont été appauvris.
C'est vrai, tout à fait. Il y a les déserts médicaux, ça c'est évidemment une très bonne action. Et puis la souveraineté dans la R&D, sur tout ce qui concerne les data, ça c'est quelque chose d'important. La suppression de la redevance, c'est bien et pas bien, parce que comme vous savez, j'ai un parcours assez long dans l'audiovisuel public et il va falloir quand même trouver un moyen financier. Un moyen de financier la télé éducative, en tout cas les bonnes chaînes et Radio France, etc.
Absolument.
Le triplement de la prime de l'aide au devoir, évidemment. La prime Macron, évidemment, c'est quelque chose de très, très positif. Donc il y a du plus et du moins, voilà, comme d'habitude, il y a du en même temps.
C'est pas du en même temps, ça, Mohamed. Parce qu'il nous fait une liste de les droits de succession, etc. Effectivement, c'est important, mais il y a quand même des sujets régaliens vachement importants. L'indépendance, un peu plus d'indépendance de notre pays, une Europe plus unie. Enfin, il y a tout un tas de sujets qui sont plus importants.
Moi, j'étais très dubitatif, juste pour terminer sur cette prise de parole, très dubitatif. Heureusement, j'ai rencontré un chou à la fraise et elle se reconnaîtra qui m'a un peu convaincu sur la politique d'Emmanuel Macron, mais plus sérieusement,
vous en faut deux, hein.
Ce qui m'avait un peu étonné au début, avant d'essayer de rejoindre ce plateau bon an mal an, c'est qu'il a parlé de ses 1000 jours, des 1000 premiers jours. Et en général, c'est un primo candidat qui parle de ses premiers 1000 jours de prise de fonction. Il est quand même président de la République depuis 5 ans et il nous annonce beaucoup de mesures très essentielles et très symbolique et certaines très bonnes. Maintenant, on a envie de dire qu'est-ce que vous avez fait les 5 dernières années.
Il a géré le Covid, il a géré les gilets jaunes, il gère la crise ukrainienne.
Mais vous étiez tous d'accord, il fallait bien que je rentre dedans quand même un petit peu quand même.
Et non, mais c'est vrai. En même temps, il y a nombre de sujets qu'il n'a pas pu aborder, comme les retraites. Il n'a pas pu arriver au bout. Pourquoi? Parce que le Covid est tombé, les gilets jaunes. Bon, c'est peut-être un peu de sa faute parce qu'il aurait peut-être fallu le gérer avant. Mais l'affaire des gilets jaunes, moi, à chaque fois, on va croire que je suis un vrai macroniste, mais ce n'est pas vrai. Moi, j'essaie d'être équilibré dans les propos, toujours de dire. Les gilets jaunes, c'est 30 ans de politique. Je le dis à chaque fois, je vais sur les plateaux télé où je vois les politiques en train de taper. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pendant les années? Donc 30 ans, on est en train de le payer. Et Macron s'est pris tout sur la tête en 5 ans. Donc c'est vrai que faire beaucoup de réformes en 5 ans avec ce qui s'est passé, c'est compliqué. C'est plus l'Ukraine, yaï.
C'est vrai, mais on est juste souvent dans la posture et dans l'annonce et dans l'incantation. Et puis derrière, ça ne suit pas.
Red Chaibi, Mohamed Abdeslamitage.
Et puis objectivement, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Quand on parle de réformer le chantier de l'école avec un suivi individualisé des enfants, de réformer le lycée professionnel pour en faire une voie d'excellence, on en parlait en off tout à l'heure. Effectivement, on avait toujours tendance à considérer ces voies-là comme des voies de garage.
Tout à fait.
Je pense que ça va dans le bon sens. Quand il parle plutôt de l'égalité femmes-hommes qui doit rester une grande cause, je suis d'accord, et d'ailleurs je salue l'action qui a été menée par Elisabeth Moreno, même si j'ai un petit bémol à adresser au président de la République, nous attendons toujours l'hommage national qui doit être rendu à Gisèle Halimi, qui, pour moi et pour beaucoup, incarne aussi cette grande cause du quinquennat du président de la République. Et dernière chose sur renforcer la sécurité au quotidien, là aussi il y a un besoin criant. Alors pardonnez-moi, je parle du département que je connais le mieux, mais en Seine-Saint-Denis, il y a eu une annonce qui avait été faite, un état fort en Seine-Saint-Denis par le Premier ministre Édouard Philippe en 2019. Bon, le Covid est passé par là, forcément il y a eu un impact, mais le rapport parlementaire du député François Cornu-Gentil des Républicains et de Régis Coquendo de La République En Marche a été extrêmement sévère sur son application. J'attends sur cette partie-là du programme du président de la République à ce que vraiment les moyens soient mis, notamment...
Allez, on va marquer la pause, parce qu'on me demande de la lancer. Merci Ryan. On écoutera Abdeslamitage, on reviendra aussi sur les deux autres sujets. J'aimerais aussi qu'on prenne le temps d'en parler. C'est la guerre en Ukraine, mais également aussi la prime. Auria, vous êtes avec moi, Auria? Attendez, je vais juste l'accueillir. Je vais juste l'accueillir rapidement. Auria de Lyon, bonsoir.
Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames.
Alors Auria, ce que je vous propose, je lance la pub et je vous récupère tout de suite après. Restez avec nous Auria. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les informer avec Adil Farkan.
19h46 sans tarder et notamment avec les débatteurs qui sont tous autour du plateau, mais le quoi de neuf tout de suite.
Les informer, le quoi de neuf.
Le quoi de neuf, et comme chaque jeudi, c'est avec Pascal Boniface, le patron de l'ERIS, géopolitologue. Bonsoir mon cher Pascal.
Bonsoir Adil.
Eh bien, vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur, comme chaque jeudi, cette fois avec la géopolitique de la guerre. On vous écoute, mon cher Pascal Boniface.
Oui, effectivement, la guerre continue entre la Russie et la Ukraine. On se demande comment elle pourra prendre fin. Et c'est là où les Ukrainiens sont face à un dilemme. Est-ce qu'ils doivent accepter les demandes de Poutine et du coup récompenser l'agression, ou est-ce qu'ils doivent les refuser mais prolonger la guerre? Et parmi les demandes de Poutine, il y en a certaines qui peuvent au moins peut-être être, disons, discutées. Alors, est-ce que l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN? En fait, le président Zelensky a de lui-même dit que l'Ukraine ne rentrait pas dans l'OTAN. Est-ce qu'on peut reconnaître l'annexion de la Crimée par la Russie? En réalité, personne ne songe qu'on ira un jour reconquérir la Crimée de force. Et par ailleurs, les gens qui habitent en Crimée, qui ont été annexés, le voulaient. Il y a des annexions contre la volonté de certains peuples, mais là, ils le voulaient. Et le Donbass, on sait très bien qu'en fait, il y a des populations pro-russes, que Zelensky n'a pas voulu mettre en avant les accords de Minsk, et bon. Mais le problème, c'est que donc on pourrait dire finalement il ne renonce pas à grand-chose s'il accepte ces demandes de Poutine. Le problème, c'est que Poutine pourrait se voir récompensé pour avoir commis la guerre et qu'il obtiendrait quelque chose par la guerre qu'il n'a pas obtenu par la négociation. Donc c'est un véritable dilemme pour les Ukrainiens. Est-ce qu'on doit refuser même des choses dont finalement on pourrait s'accommoder, on n'a pas vraiment, enfin on sait qu'on ne rentrera pas dans le temps, etc. Et où est-ce qu'il faut continuer à refuser? Mais on continue la guerre, et bien sûr, on peut se dire qu'à terme, Poutine va perdre la guerre parce que l'Ukraine ne va pas accepter d'être occupée. Rappelons juste un petit détail. Lorsque l'armée soviétique a envahi la Tchécoslovaquie en 68, il y avait 500 000 hommes. Là, il y en a que 150 000. Donc, ils ne pourront pas tenir l'Ukraine. Mais en même temps, ils vont pouvoir continuer à faire des destructions. Et donc, c'est un peu le même dilemme que lorsqu'un dictateur doit quitter le pouvoir. Est-ce qu'on accepte de lui accorder l'impunité pour qu'il quitte le pouvoir plus tôt, ou est-ce qu'on dit non, il faut le sanctionner, parce que c'est ça qui est important, et du coup, on peut éventuellement maintenir son régime. Poutine doit être jugé pour crime de guerre, certains l'ont déjà demandé, mais on sait très bien qu'on n'ira pas le chercher à Moscou. Donc c'est tous ces débats qui sont un peu compliqués, qui sont à la fois philosophiques et stratégiques, sur lequel je voulais un peu vous amener à réfléchir ce soir.
Eh bien, merci, évidemment, pour ces sujets. Vous nous amenez avec autant de passion, j'ai envie de dire, et avec de réflexion. Merci, Pascal Boniface. À jeudi prochain, avec autant de plaisir.
Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir partagé avec Bruno Pomar sur le plateau, Abdeslam Itach, Mohamed Benjebour, mais également aussi Raed Chaibi. Justement, j'aimerais, il me permet une belle transition, un mot sur la guerre en Ukraine. La guerre est-elle, est-ce qu'on peut envisager, évidemment, cette voie diplomatique et envisager la paix ou la guerre se poursuit? Bruno Pomar.
Qui a la réponse? Je crois que Pascal Boniface a très bien parlé en disant où est-ce qu'on, où va-t-on? Parce que ça dure quand même, ça va faire bientôt un mois, quoi, que Poutine continue son avancée, même si il est ralenti par les forces ukrainiennes. La voie diplomatique, évidemment, c'est la voie la plus sage. On le sait.
Elle fonctionne pas avant la guerre.
C'est vrai. Et pourtant, Macron s'époumonne. Biden est monté au créneau aussi. Enfin, il y a beaucoup de chefs d'État qui montent au créneau pour discuter avec ce fou, parce qu'il est fou, Poutine, pour essayer de ralentir.
Certains vous diront qu'il est pas fou, hein. Beaucoup ici des débatteurs disent qu'il n'est pas faux du tout. Gamal Abena hier, au contraire, le soutient. Il dit qu'il est dans une stratégie.
Oui, mais une stratégie, j'entends bien.
Enfin, il le soutient pas. Non, il défend, si vous voulez.
Il n'est pas fou. Il avait écrit ce qu'il allait faire.
Oui, voilà. De vouloir refaire la Russie d'avant Gorbatchev.
Il avait prévenu, Bruno. Il avait prévenu.
Oui, mais non, mais pas de cette façon. Quoi. On fait pas la guerre, on tue pas des gens. Je veux dire, c'est le résultat final, ça va être le tribunal pénal international, et puis il sera jugé pour crime de guerre. Moi, je le pense. Je le pense
récemment. Mohamed Benjebour.
Non, écoutez, le combat est inégal, évidemment, parce que on a d'un côté une partie occidentale qui veut pas aller à la guerre et qui veut pas intervenir dans un conflit qui légalement selon les lois internationales ne la concerne pas, et en même temps quelqu'un qui a pas de limites et qui a, contrairement à ce que dit Bruno, à mon avis est très rationnel et a établi son plan il y a bien longtemps de grandeur de la Russie, etc. Donc le combat est inégal, donc forcément ça va être très long. Beaucoup d'analystes qui très très réputés, respectés, etc., l'ont dit dès le départ que ça allait être très très long parce que ce combat était inégal et que lui sait qu'il y a quand même peut-être une certaine limite à ne pas dépasser. Pourtant, si ce qu'on dit est vrai, qui bombarde des hôpitaux, des lieux où il y a des enfants, etc.
Et le théâtre,
c'est quand même des limites. Et le théâtre, c'est quand même des limites qui ont été dépassées. Donc
là, on peut se considérer effectivement la crime de guerre. Effectivement. Abdeslam Itach, en peu de temps, s'il vous plaît, parce qu'on doit rendre l'antenne dans 1 minute 30.
D'accord.
Je suis désolé.
Bon, déjà j'ai été zappé sur les sujets sur la loi de l'installation agricole et tout le reste. On me demande d'aller beaucoup plus vite. Bon, je vais essayer.
C'est un peu exceptionnel ce soir.
Je vous remercie. Vladimir Poutine n'a absolument rien à craindre de la Cour pénale internationale pour une raison, c'est que les Russes et les Américains ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale. Mmh. Donc il sera difficile de traduire et d'aller le chercher directement au Kremlin pour pouvoir justement le juger. Mais si vous permettez, moi je voulais juste revenir sur...
il me reste une minute. Hein.
D'abord sur la Crimée.
Vous avez 30 secondes.
Historiquement, il y a eu un référendum où les habitants de la Crimée ont souhaité justement être rattachés. Et historiquement, la Crimée et le Donbass faisaient partie de la Russie à l'époque soviétique, puisque c'est Lénine qui a concédé ces parties-là à l'Ukraine. Mais comme c'était le bloc soviétique, en fait, il n'y avait pas de c'est un non-sujet.
De toute façon, c'est un sujet sur lequel, évidemment, on reviendra, puisque, comme vous l'avez dit, Bruno Pomard, on est parti, évidemment, pour... on en est là à combien ? À la 22e journée, ouais, il me semble, de guerre. Hein. Rayed Chebi.
Très rapidement,
s'il vous plaît, Poutine, je vous en remercie.
Très rapidement, Vladimir Poutine attend que l'Ukraine, capitule, mais je ne pense pas que ce soit la volonté du président Zelensky. La voie diplomatique, effectivement, est toujours nécessaire. Et je pense, moi, à titre personnel, que la clé de ce conflit, c'est la Chine.
Exact. Ouais,
on ne parle pas du contenu des entretiens entre le président Macron et le président.
Merci.
Mais c'est la Chine la clé.
Bruno Pomard, à très vite, attention.
Avec grand plaisir.
Ne disparaissez pas comme ça dans la nature. Hein.
Non.
Chroniqueur chez Cyril Hanouna qu'on salue. Vous êtes aussi le patron du Raid Aventure. Oui. Merci à vous. Mohamed Benjibour, merci. Mohamed Raid Chebi, merci.
Exactement. Mohamed Rayed.
Abdeslam
Itach. Mais moi, je veux rester, je suis arrivé en retard, je reste.
Restez, il n'y a pas de problème.
Merci Mohamed Farkan.
À la réalisation, c'était Giovanni. À demain avec autant de plaisir. Merci à tous les auditeurs. Je m'excuse d'entrer puisqu'on les a pas pris tous. À demain, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.